Voix Afrique.
Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde aujourd'hui, édition du jeudi 19 décembre 2019. En direct de Washington, Idrissa Sedoulia
et Anne Albertson.
Journée historique hier à Washington où la Chambre des représentants dominée par les démocrates a officiellement mis en accusation le président Donald Trump après un débat marathon et un vote marqué par son caractère nettement partisan, les républicains votant en bloc en faveur de M. Trump.
Le président Trump, qui est devenu mercredi le troisième chef de l'exécutif américain à être mis en accusation, impeached, pour abus de pouvoir et entrave au Congrès, il s'agit d'une mesure historique qui va donner lieu à un procès en destitution au Sénat et alimenter les tensions partisanes dans un pays profondément divisé. Le point avec Jean-Roger Bion.
La Chambre des représentants, où les démocrates sont majoritaires, a voté en séance plénière 230 voix pour et 197 contre la mise en accusation de Donald Trump pour abus de pouvoir. Elle a ensuite voté à 229 voix pour et 198 contre la mise en accusation du président républicain pour entrave au Congrès dans l'affaire ukrainienne. Un procès devrait être organisé en janvier au Sénat, contrôlé par les républicains qui continuent de défendre Donald Trump et pourront faire obstacle à la procédure. Le chef de file de la majorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, avait déclaré avant le vote à la Chambre qu'il n'y avait, selon lui, aucune chance que le Sénat destitue Trump. Cette procédure anarchique et partisane est un suicide politique pour le Parti démocrate, a déclaré le président américain lors d'un meeting de campagne à Battle Creek au Michigan, alors que le vote était en cours à la Chambre. Les démocrates accusent Donald Trump d'avoir cherché à faire pression sur son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky, afin que Kiev ouvre une enquête sur les activités en Ukraine du fils de Joe Biden et sur Joe Biden lui-même, le potentiel adversaire démocrate de Trump lors de la présidentielle de novembre 2020. Il lui reproche aussi d'avoir entravé leur enquête en bloquant la transmission de documents et les témoignages de ses principaux conseillers, mais aussi via des tentatives vaines d'empêcher d'autres dépositions et d'intimider des témoins.
Pour un éclairage et pour discuter de la prochaine étape de ce combat politique, j'ai contacté notre confrère René Lake, analyste politique basé ici même à Washington. Je lui ai d'abord demandé quelles leçons tirer du vote plutôt partisan d'hier soir.
Oui, malheureusement, on a envie de dire que ça a été partisan parce que tous les deux autres cas d'impeachment qu'on a connus dans l'histoire américaine étaient relativement bipartisans. Vous disiez tout à l'heure troisième cas en plus de deux siècles ici aux États-Unis, mais c'est la première fois d'un point de vue historique que cela arrive à un président dans un premier mandat. Ça a été une journée historique. Hein.
Les positions des deux camps ont été plutôt figées depuis le début de cette procédure d'impeachment à la Chambre des représentants. Comment expliquez-vous cette situation.
Écoutez, moi, je crois que Idrissa, cela remonte même déjà à la période d'Obama où le camp républicain et le camp démocrate étaient dans des tranchées et cela s'est exacerbé avec l'arrivée de Trump. Et depuis les deux, trois dernières années, avec Trump, il y a un climat relativement délétère, je crois, qui s'est installé aux États-Unis, tant au plan politique qu'on pourrait même dire au plan social, et on le voit un peu dans la vie de tous les jours. Je lisais une étude qui disait que depuis l'époque de la guerre civile, l'Amérique et les Américains n'ont jamais été aussi divisés.
Pour parler comme les Latins, il a été beaucoup question de quid pro quo dans cette affaire ukrainienne. Alea iacta est, les jeux sont faits. Quelle est maintenant la prochaine étape?
Alors la prochaine étape, on ne sait pas trop parce que donc là, on va à un procès de destitution au Sénat. Les républicains sont majoritaires, donc il y a très très peu de chances que Trump soit destitué. Mais on ne sait jamais s'il y a des témoins, comme le demandent les démocrates, qui pourraient retourner un peu quelques sénateurs républicains. Le vent pourrait changer de direction, mais cela est très très peu probable.
Mais il y a la présidente de la Chambre des représentants qui a piloté toute cette affaire, Nancy Pelosi, qui a dit qu'elle pourrait ne pas transmettre les articles d'accusation au Sénat. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça?
Ça va être quelque chose de très intéressant. Elle dit que non seulement elle peut ne pas les transmettre, mais que aussi, vous savez, c'est le Congrès qui doit avoir un peu ce qu'on appelle les procureurs de ce procès au Sénat. Ça doit être le Congrès. Donc, et c'est elle qui doit désigner les différents procureurs qui vont représenter le Congrès, donc essentiellement les démocrates. Et elle dit que elle ne compte pas le faire tant qu'elle ne saura pas exactement comment le procès va se dérouler au niveau du Sénat. Or, il se trouve que Mitch McConnell, qui est le leader même du Sénat, puisqu'ils sont majoritaires, semble ne pas prévoir un procès très équitable, en tout cas selon les déclarations qu'il aurait faites à Fox News il y a quelques jours. Donc je crois qu'on va rentrer là dans une période d'incertitude assez particulière.
L'analyste politique René Lake, joint ici à Washington.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique. L'actualité en Afrique, en Côte d'Ivoire, l'opposition politique a annoncé hier qu'elle maintenait son meeting prévu samedi lors de la visite du président français Emmanuel Macron, mais dans un lieu différent pour contourner la tentative des autorités de l'en empêcher. Des détails avec Ekiabadou.
Maurice Kaku Gikawe, numéro 2 du PDCI, annonçait hier que le meeting se tiendra au stade Séni Fofana de Port-Boué, une commune populaire d'Abidjan. Ce meeting devait se tenir à Yopougon, une autre grande commune populaire, mais dont la mairie est tenue par le parti au pouvoir du président Alassane Ouattara. Vendredi, le maire de Yopougon a pris un arrêté interdisant toute manifestation publique jusqu'au 5 janvier 2020, ce qui revenait à interdire de facto le meeting de l'opposition. Pour Port-Boué, nous avons l'autorisation de la mairie qui est tenue par le PDCI, a précisé M. Gikawe. La coalition pour la démocratie, la réconciliation et la paix lancée par le PDCI et Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, proche du FPI de l'ex-président Laurent Gbagbo, organise cette rencontre aux allures de campagne pour la présidentielle d'octobre 2020. Emmanuel Macron se rend en visite officielle en Côte d'Ivoire à partir de demain vendredi jusqu'à dimanche.
Au Cameroun, les députés ont adopté ce mercredi un projet de loi sur la décentralisation, accordant un statut spécial aux deux régions anglophones du pays. Un conflit meurtrier opposant l'armée à des séparatistes se déroule depuis plus de 2 ans dans le sud-ouest et le nord-ouest camerounais. Selon la radio nationale, ces régions seront désormais autorisées, si la loi est approuvée par le Sénat et promulguée, à élaborer des politiques publiques dans les domaines de l'éducation et de la justice. Ce statut spécial est la principale recommandation sur laquelle s'étaient entendus les participants d'un grand dialogue. Les participants à un grand dialogue national convoqué par le président Paul Biya début octobre pour mettre fin à cette crise qui a fait plus de 3000 morts.
Au Tchad, au moins 14 personnes ont été tuées, 5 blessées et 13 portées disparues mardi dans un village de pêcheurs dans l'ouest du pays suite à une attaque de membres présumés de Boko Haram. Le groupe djihadiste nigérian multiplie également ses attaques meurtrières dans les autres pays riverains du lac Tchad, Niger, Nigeria et Cameroun. Les assaillants sont venus en petits groupes dans un premier temps avant d'être renforcés pour attaquer les pêcheurs dans une zone appelée zone rouge. Difficile d'accès, a précisé un responsable local.
La cour d'assises de Bruxelles doit rendre ce jeudi son verdict à l'encontre d'un ancien haut fonctionnaire rwandais accusé d'avoir pris part au génocide de 1994 dans son pays et dont le parquet fédéral a requis la condamnation pour crime de génocide. Fabien Neretse, un Hutu de 71 ans, qui clame son innocence, pourrait être la première personne condamnée en Belgique pour ce chef d'accusation. Également accusé de crimes de guerre, il encourt la réclusion à perpétuité, mais sa peine ne sera connue que dans un second temps, vraisemblablement vendredi.
7 Marocains et 2 Espagnols ont été condamnés à des peines allant jusqu'à 10 ans de prison ferme pour un trafic de migrants ayant notamment entraîné la mort d'une étudiante marocaine de 22 ans en septembre 2018 au large du Maroc. Rabat a renforcé ces derniers mois la lutte contre l'immigration clandestine avec des aides européennes, espagnoles notamment.
Le premier forum mondial sur les réfugiés a fermé ses portes hier à Genève. L'ONU a salué un nouveau virage pour l'aide aux réfugiés. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
8 milliards de dollars, dont 4,7 milliards par la Banque mondiale, ont été promis. Selon le HCR, le secteur privé a émis des annonces qui doivent permettre de donner accès aux réfugiés à au moins 15 000 emplois. Les gouvernements se sont engagés dans les domaines de l'énergie, de l'infrastructure et de l'éducation. Ils disent devoir changer leur législation pour faciliter l'accès à l'école pour les enfants. Le HCR s'est félicité des annonces en matière de réinstallation, un programme consistant à installer dans des pays tiers des personnes déjà déplacées. La Commission européenne a prévu de réinstaller plus de 30 000 réfugiés en 2020. Le HCR estime à 1,44 million le nombre de réfugiés en besoin de réinstallation. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé la communauté internationale à assumer collectivement le poids des 26 millions de réfugiés qui ont quitté leur pays, le plus souvent à cause des guerres et d'autres violences.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Irénée Herman Oumbo.
Le géant mondial de l'acier ArcelorMittal a menacé de renoncer à un important programme d'investissement au Libéria s'il n'obtenait pas satisfaction dans un litige concernant une concession portuaire cruciale pour ses exportations au départ de Monrovia. Le Congo bénéficiera d'un financement de 208 millions de dollars de la BAD pour relancer son activité économique. C'est ce qu'indique l'institution panafricaine dans un communiqué. L'objectif est de créer les conditions d'une croissance économique soutenue à travers le renforcement de la consolidation budgétaire et la relance de l'économie du Congo. Déception et insatisfaction complète pour les négociations sur la finance climat à la COP25. Les représentants africains n'ont rien obtenu sur l'ensemble des préoccupations financières qu'ils ont porté à cette conférence, rapporte Ecofil. Les acteurs de l'industrie de la viande de bœuf de la Namibie disposeront en 2020 d'un quota d'exportation de 1600 tonnes de viande vers la Norvège. Selon Ecofil, il s'agit de la MITCO, principale entreprise exportatrice de viande de bœuf du pays, 1400 tonnes, et de la Brucaros Meat Processor, 200 tonnes.
Les sports à présent avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Le FC Barcelone et le Real Madrid ont fait match nul dans le Classico.
Oui, 0-0 hier dans un Camp Nou transformé en théâtre de revendications indépendantistes. Le Barça et le Real Madrid campent ainsi sur leur position au classement où ils sont toujours premier et deuxième avec le même nombre de points, 36. 5 de mieux désormais que Séville, ciblé par des manifestations indépendantistes. Ce sommet de la Liga, initialement prévu le 26 octobre dans le cadre de la 10e journée, avait été repoussé par la Fédération espagnole en raison de mobilisations et de heurts en Catalogne consécutifs à la condamnation de dirigeants séparatistes. Hier, 12 personnes ont été blessées lorsque la police a chargé des centaines d'indépendantistes qui ont mis le feu à une barricade à l'extérieur du stade.
Liverpool rejoint Flamengo en finale du Mondial des clubs.
Et oui, Liverpool s'est défait des Mexicains de Monterrey 2-1 en demi-finale à Doha au Qatar et affrontera samedi les Brésiliens de Flamengo dans un remake de la finale de 1981 pour le titre intercontinental. Le Guinéen Naby Keïta à la 12e minute et le Brésilien Roberto Firmino à la 91e ont permis aux Reds de l'emporter face à une équipe joueuse de Monterrey emmenée par l'Argentin Rogelio Funes Mori, buteur opportuniste en première période. En finale, Liverpool tentera de remporter le premier titre planétaire de son histoire après 3 échecs.
Hakim Ziyech, élu sportif de l'année par la ville d'Amsterdam.
Oui, l'international marocain a été désigné meilleur sportif pour l'année 2019 lors d'une soirée organisée par la ville d'Amsterdam. Hakim Ziyech a marqué l'histoire du football néerlandais grâce à une superbe saison avec l'Ajax. Il a marqué 21 buts en championnat et Ligue des champions avec 13 passes décisives. L'international marocain n'était pas présent pour recevoir son prix, mais a pu compter sur son entraîneur Erik Ten Hag pour louer ses qualités. Je compare toujours Ziyech à un artiste. Comment il frappe le ballon, comment il trouve ses partenaires devant le but, c'est beau à voir, il mérite ce prix, a déclaré Ten Hag.
Rugby, le Sud-Africain Tendai Motawarira signe un an à Washington.
Le champion du monde avec les Springboks a signé un contrat d'un an avec le Old Glory DC, le club de rugby basé à Washington. Tendai Motawarira, 34 ans, qui a pris sa retraite internationale 117 sélections après le sacre au Japon face à l'Angleterre, vient rejoindre le club de la capitale qui va intégrer une MLR en pleine expansion dès le 8 février, coup d'envoi de la saison, séparé en deux conférences Est et Ouest. La meilleure ligue rugby comptera 12 équipes, soit 3 de plus que cette année, puisqu'en plus de Washington, Atlanta et New England l'intégreront également. On reste ici, aux États-Unis, pour finir avec vous, Idrissa, les résultats de la nuit dernière en NBA.
Cleveland et Charlotte 100-98, Toronto et Détroit 112-92, Chicago et Washington 110-109, Miami et Philadelphie 108-104, La Nouvelle-Orléans et Minnesota 107-99, Oklahoma City et Memphis 126-122, Denver et Orlando 113-104, Boston et Dallas 109-103, Portland et Golden State 122-112.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Votre compagnie Idrissa Sédoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Niger, dans son discours télévisé à la Nation mardi soir, à l'occasion du 61e anniversaire de la proclamation de la République, le président Mahamadou Issoufou a fait état d'une place de Niamey dédiée au commandant du camp militaire d'Inates, tué dans une attaque avec 70 de ses soldats. Pour le président, cette attaque revendiquée par le groupe État islamique et celles qui l'ont précédée rappellent que le pays est en guerre contre un ennemi perfide. Les réactions à ce discours avec notre correspondant à Niamey, Abdulrazak Idrissa.
Le message à la nation du chef de l'État était attendu par l'opinion vu le contexte dans lequel ce 61e anniversaire de la proclamation de la République est fêté, un contexte sécuritaire dégradé et fort opportunément rappelé par le président Issoufou.
Nous sommes en guerre. Nous menons cette guerre, on ne le répétera jamais assez, pour une cause juste, la défense de notre nation et de l'intégrité de notre territoire. Et c'est pour cela que nous la gagnerons. Plaise à Dieu, quel que soit le temps que cela prendra.
Pour Garé Amadou, journaliste, le message du chef de l'État était empreint de responsabilité.
Pour moi, ce message à la nation du président de la République est un message de tous les défis. Un défi d'abord sur le plan sécuritaire à travers l'union des cœurs et des esprits, derrière notre armée pour lutter contre le terrorisme. Le président a appelé le peuple nigérien à ne pas tomber dans le piège du divisionnisme parce que c'est ce que cherchent les terroristes. Le deuxième défi est le défi du dialogue politique. Et à ce sujet, le président de la République n'est pas passé par quatre chemins pour apporter un soutien plein et entier au Premier ministre qui doit conduire le dialogue politique et aussi à la CENI qui poursuit un travail vraiment remarquable afin de doter le Niger d'un fichier électoral indispensable pour la tenue des prochaines élections. Une réponse claire à la demande de l'opposition qui veut l'implication directe du président de la République. Le président de la République, à travers son soutien au Premier ministre, a voulu faire comprendre à l'opposition que c'est lui qui a mandaté le Premier ministre et qui dispose de sa pleine et entière confiance pour conduire ce dialogue-là.
El Hadj Idi Abdou est lui activiste. Il estime que le président Issoufou devait saisir l'occasion de ce message pour faire de fortes annonces.
Comme il avait souligné dans son discours, l'heure est grave. Si l'heure est grave, on prend des décisions à la hauteur de la gravité de la situation. Il a parlé évidemment de la tuerie des militaires, de l'enlèvement des personnes. Il y a même des incendies de l'école et ça continue.
Cette barbarie-là, ça ne doit pas rester au niveau du discours. Ça doit vraiment faire naître des actes concrets pour qu'on sente. On ne peut pas continuer. Et avec la délation et la mort, et toujours la chaîne du commandement est intacte. C'est la même chose, les gens continuent. Moi, je m'attendais à ça, effectivement, à un remaniement au niveau de la chaîne de commandement. Et beaucoup d'autres, je suis sûr, s'attendaient à ça.
Ce mercredi, le président Issoufou a assisté dans le chef-lieu de la région de Tillabéri, victime des attaques des groupes djihadistes venus du Mali, avec ses homologues burkinabés et ghanéens, à un grand défilé militaire et civil pour commémorer la fête. Abdelrazak Idrissa, à Niamey, pour VOA Afrique.
Abdourahmane Dia avec vous. Cette semaine dans Washington Forum, le G5 Sahel, réuni en sommet extraordinaire à Niamey, appelle la communauté internationale à plus d'engagement dans la lutte contre le terrorisme dans la région. Un appel lancé après la mort de 71 soldats nigériens à Inates, l'attaque la plus meurtrière visant l'armée nigérienne depuis 2015. Quelle stratégie face aux groupes armés dans le Sahel? Quel rôle pour la communauté internationale dans cette lutte contre le terrorisme? Nous allons évoquer toutes ces questions avec nos invités ce jeudi à 19h temps universel dans Washington Forum. Vous pouvez réagir sur notre page Facebook.
Au Sénégal, l'insertion des jeunes diplômés dans le monde professionnel est un problème majeur. L'État et les entreprises ne recrutent pas autant qu'ils devraient. Trouver un stage rémunéré relève même d'une gageure pour des jeunes qui ont pourtant les diplômes requis. De Dakar, notre correspondant Sédina Abagui.
Licence, master, doctorat, les étudiants sénégalais passent tous les échelles du système LMD sans pour autant avoir la garantie de trouver un emploi à leur sortie des universités et instituts de formation professionnelle. Certains sont d'ailleurs obligés de se tourner vers des métiers qui n'ont rien à voir avec leur formation initiale. Alimatou Sadia Ndiaye est titulaire d'une licence, mais elle a eu toutes les peines du monde avant de trouver un stage.
Moi, je fais un travail qui ne demande même pas le diplôme de fin d'études moyenne, juste pour dire combien il est difficile de trouver du travail. On a fait une prime de transport de 25 000 par mois. J'arrive même pas à combler le prix mensuel de mon transport. Malgré une formation qui a coûté très cher à mes parents, je pense que l'État du Sénégal a quasiment raté sa politique de l'emploi. Parce qu'au terme de notre formation, rare de nos promotions ont réussi à avoir un stage. Un contrat de travail, n'en parlons même
pas. Un avis que ne partage pas totalement Yacine, c'est titulaire d'un Master 2 en marketing, estime que l'État fait de son mieux et que les jeunes devraient trouver des alternatives pour assurer leur avenir professionnel.
Je vous dirais que l'État nous a même offert des opportunités, à savoir les concours d'État et autres. C'est moi qui ai pris un peu de recul pour voir si j'arriverai à m'intégrer dans la fonction publique déjà. Sinon, je vais faire recours à ma formation professionnelle. J'ai même des projets d'entrepreneur, c'est-à-dire être dans le freelance, lancer mes propres projets, comme je suis déjà marketeur. Je ne pense pas que l'État puisse donner le plein emploi en l'espace de 5 ou 10 ans. Ce n'est pas possible. Il y a trop de jeunes diplômés ici au Sénégal. Il ne faut pas tout attendre de l'État.
L'État ne peut certes pas tout faire, mais il doit s'associer au patronat pour trouver des solutions afin d'asseoir une bonne politique concernant l'emploi des jeunes. Selon des experts, pour assurer l'employabilité des jeunes, il faudrait que les formations académiques soient adaptées aux offres d'emploi, mais il faudrait surtout que l'État et le patronat revoient ensemble et en profondeur leur politique d'embauche afin de garantir aux jeunes diplômés des emplois en phase avec leurs compétences. À Dakar, Seydina Bagui pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
De l'électricité dans les camps de déplacés d'ici 2030, c'est le défi humanitaire qu'a lancé l'ONU lors du premier forum mondial sur les réfugiés, même si l'institution est consciente que cette bataille pour l'énergie comporte aussi des risques de conflit. Et Kiabadou a joint Lisa Bryant, notre envoyée spéciale à Genève.
On va voir les résultats dans le long terme, pas tout de suite, pas forcément. Il y a des résultats dans le court terme. C'est la première forum de réfugiés mondial qui inclut, je dois dire, aussi des réfugiés eux-mêmes. Et c'est le HCR qui est le hôte et aussi le gouvernement de la Suisse. Et en fait, l'idée, c'est de trouver des solutions qui sont plus cohérentes. Ce sont des solutions qui sont plus inclusives, pas simplement vis-à-vis le traitement des réfugiés dans les camps, etc., mais aussi dans le façon que les pays accueillent ces réfugiés. Et bien sûr, on a vu pas mal de situations où des pays en Europe et ailleurs disent on a trop de réfugiés, etc. Donc, l'idée, c'est d'avoir aussi du financement. Et on va voir, c'est des 250 millions déjà promis par des différentes entreprises et fondations, des entreprises comme IKEA par exemple. Mais je sais que le HCR regarde pas simplement l'argent, mais aussi des idées comme la formation des réfugiés, des différentes sortes de professions. Donc ils vont avoir aussi une demande. L'expertise des entreprises dans des choses comme les panneaux solaires, etc., parce qu'il veut avoir l'énergie propre dans les camps de réfugiés. Donc, il y a des choses qui sont petites et aussi des choses qui sont grandes. Et vis-à-vis des promesses des grands pays, on va voir dans les heures et aussi les mois et les années qui vont suivre.
Alors, vous avez parlé de solutions financières, mais pas que. Sur la façon d'accueillir différemment, qu'est-ce qui a été proposé?
L'idée qui est proposée pour le moment, c'est d'avoir quelque chose de beaucoup plus global et quelque chose qui est inclusif, pas simplement l'inclusion des réfugiés eux-mêmes, mais d'avoir plus un partenariat entre, disons, le secteur privé, la communauté humanitaire et aussi les pays eux-mêmes, les pays donateurs, mais aussi les pays de l'accueil. Des pays comme l'Éthiopie ou l'Uganda qui accueillent plusieurs millions de réfugiés. Et donc, plus une sorte de stratégie compréhensive et beaucoup plus chaleureux, disons, beaucoup plus accueillant vis-à-vis des réfugiés. Et en parlant avec les réfugiés eux-mêmes, ils disent on doit être partie de cette stratégie parce que ça s'agit de notre vie et on est les experts sur notre vie.
Lisa Bryant, notre envoyée spéciale à Genève.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Pour terminer, la réalisatrice burkinabé Apolline Traoré accumule les récompenses depuis le FESPACO de février dernier à Ouagadougou pour le long métrage d'Errance. Elle a décroché divers prix dans plusieurs pays, dont trois au Festival international du Kerala en Inde le 13 décembre. L'une de ces distinctions a été attribuée à Jemima Naomi Nemlin, meilleure actrice enfant pour le rôle de Ayla, héroïne du film retraçant l'histoire d'une petite fille qui sauve son père pendant la violence post-électorale en Côte d'Ivoire. Nathalie Barge a joint à Ouagadougou Apolline Traoré.
C'est vraiment un coup de cœur et une grande fierté pour moi parce que c'est son premier rôle au cinéma. Elle n'a jamais joué avant. Et là, elle se retrouve avec trois prix. Le premier était en Belgique, au Festival de Bruxelles, où elle a eu la mention spéciale du jury. Et au Nigeria, où elle a eu le prix encore de la jeune actrice francophone anglophone. Et après, à Ouaga pour les Sotidis. Donc, c'est vraiment une fierté pour moi, parce qu'elle a vraiment incarné son rôle avec grandeur. Et la formation que j'ai pu lui donner pour pouvoir incarner ce rôle-là, je suis très fière avec les résultats que nous obtenons aujourd'hui.
Parlons du film d'Errance, hein, qui se situe donc à la période de violence électorale en Côte d'Ivoire. C'est l'histoire d'un père, de parents avec une petite fille et c'est une sorte de plaidoyer pour les femmes, pour les filles, n'est-ce pas? Car il y a dans cette histoire la lutte justement de cet enfant, Ayla.
Exactement, exactement. Je voulais vraiment parler de ce phénomène où, comme on dit, nos bons pères africains souhaitent toujours avoir un garçon qui vont perpétuer leur legacy et la femme est mise au second plan. Et aujourd'hui, on constate avec l'émancipation de la femme comment beaucoup de femmes aujourd'hui s'occupent de leur famille, de leur père et de leur mère quand ils sont vieux, mais elle n'est toujours pas légitime, elle n'est toujours pas l'héritière. Et cette période aussi est très importante pour moi parce que nous savons tous que la guerre en Côte d'Ivoire, bien que nous sommes ici au Burkina, on l'a vraiment senti parce qu'à l'époque, dans la capitale, il y avait près de 3 millions de Burkinabés dans la ville qui étaient plus ou moins chassés ou qui décidaient de rentrer. Et on l'a vraiment senti ici parce qu'il y avait beaucoup de ces gens-là qui n'avaient pas forcément de place. Et en sachant que les élections un peu partout arrivent très bientôt, en 2020, j'espère en tout cas que ce film aurait rappelé l'horreur qui s'est passée et que ça n'arrivera plus.
Revenons sur Nollywood, parce qu'en fait, donc, il y a eu plusieurs trophées. Vous avez eu donc celui de la meilleure réalisatrice francophone-anglophone pour le long métrage, mais le Burkina Faso a récolté aussi 8 trophées à ce festival, notamment Kadi Traoré pour les séries télévisées, Un femme au foyer, qui a eu le même trophée que vous, et Mouna Ndiaye qui a remporté, elle, le trophée de meilleure actrice.
C'est ça.
Quel est votre sentiment sur tous ces trophées récoltés là-bas à Nollywood?
C'est une fierté parce que ce festival, pour la première fois, a ouvert ses portes au cinéma francophone. Pour Dérange, j'avais la chance au moins d'avoir traduit ou sous-titré mon film en anglais. Donc je pouvais compétir dans la compétition globale, c'est-à-dire de complètement de l'Afrique, de langue portugaise, anglophone et francophone et tout. Mais au niveau de la sélection francophone, il y a eu quand même assez de trophées et c'est extrêmement important que Nollywood justement commence à s'ouvrir parce que nous sommes bombardés par des films de Nollywood, mais très peu là-bas connaissent notre cinéma.
Apolline Traoré, la réalisatrice burkinabé du film d'Errance.
Salut les amis, Roger Moutou ici sur VOA Afrique. Vous me suivez tous les soirs à 20h temps universel dans l'émission RM Show. Au menu, de la bonne musique, des interviews avec des personnalités et des artistes. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de la VOA Afrique. Suivez-nous en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001 202 205 2633. C'est au 001 202 205 2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace.
Peace Africa.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Jimmy Cook. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Edressa Seboudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.